Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. C'est avec plaisir que je vous présenterai toute cette émission. Donc une heure de relaxation, de musique et d'actualité dans notre programme en français en ce samedi. Et on débute comme chaque semaine avec notre petit retour en arrière, notre rétrospective du jour.
Notre rétrospective du jour, le 16 mars, nous allons remonter en 1990, il y a 24 ans, jour pour jour, lorsque Titouan Lamazou gagnait le premier Vendée Globe. C'est Valentine Saboureau qui nous fait revivre cette première édition avec les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et notamment l'arrivée du grand vainqueur, l'artiste et navigateur Titouan Lamazou. C'était il y a 24 ans, on le disait, Valentine Saboureau.
Un homme, un bateau d'océan, c'est de la surenchère pour l'aventure, mais surtout pour cette espèce de communion avec son bateau.
Il l'a fait, et avec quel panache! Ce 16 mars 1990, Titouan Lamazou arrive au Sable d'Olonne après un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, qui aura duré 109 jours, 8 heures, 48 minutes et 50 secondes. Accueilli dans la nuit par ses proches, ainsi qu'une foule de curieux et de journalistes, l'artiste et navigateur français marque de son empreinte la toute première édition du Vendée Globe Challenge avec un record de vitesse qui ne sera battu que 7 ans plus tard. Le concept de cette incroyable course prend ses racines en 1968 en Angleterre. Le Golden Globe Challenge, parrainé par le Sunday Times et initié par Sir Francis Chichester, impose les mêmes passages par les caps de Bonne-Espérance, Lewin et Horn, mais il n'y a pas de ligne de départ ni même d'arrivée identique pour les participants qui doivent en outre naviguer au sextant et à la boussole. Sur 9 skippers engagés, un seul parvient à finir son tour du monde, c'est Robin Knox Johnston en 312 jours, c'est lui le pionnier. Près de 20 ans plus tard, les coureurs du Vendée Globe Challenge sont prêts à prendre la relève. La course, lancée par le navigateur Philippe Janteau qui participe également, a bénéficié du soutien de la région et de sponsors pour ficeler le budget. Ambitieuse, elle requiert aux participants de faire le tour de l'Antarctique dans un monocoque de 60 pieds par une route de 45 000 km environ, à adapter selon les stratégies et conditions météorologiques. Au départ de l'aventure, le 26 novembre 1989 à 15h, ils sont 13 marins d'exception, 13 gladiateurs, comme ils disent. Présentation dans Stade 2.
10 Français, 2 Américains et 1 Sud-Africain. 13 marins partis pour des endroits que la plupart d'entre eux ne connaissent pas. Partis se faire mouiller, couchés par les vagues, peur dans les coins les plus retirés du monde. 13 personnages lancés sur les océans pour le simple plaisir d'être seul, face à la mer, soi-même et son bateau. Si la motivation est commune, les moyens le sont moins. Pour Jean-Luc Vandenède, la course est assez frais, il part sans sponsor. Difficulté aussi pour un autre, Patrice Carpentier, le dernier arrivé. Il n'a eu que 3 semaines pour vraiment se préparer. Il loue son bateau 15 000 francs la semaine. Son intérêt, c'est donc de se dépêcher.
Mais comme prévu, la course n'a rien d'un long fleuve tranquille. Le Vendée Globe liste lui-même les principales déconvenues et accidents qui jalonnent cette première édition. Et c'est sans compter les rencontres inopinées et glaçantes avec les icebergs du Grand Sud. Je cite. Une première avarie donne le ton. Le vide mulet de Crédit Agricole cède. Qu'à cela ne tienne, Philippe Janteau fabrique une pièce de fortune et poursuit sa route. Le 28 décembre, Poupon déclenche ses balises de détresse. 3 bateaux sont déroutés. Loïc Perron, arrive le premier et découvre Florie Michon sur la tranche. Il lui passe une remorque, Filou largue son mât d'artimon et ça marche, le bateau revient à flot. Perron a tout filmé, les images font le tour du monde, créant un premier mythe fondateur, Poupon abandonne. Comme un autre favori, Jean-Yves Terlin, dont l'UAP débatte. L'Américain Mike Plant demande assistance en Nouvelle-Zélande. Guy Bernardin est terrassé par une rage de dents. Bertie Reed abandonne sur avaré de safran. Finalement, malgré Loïc Perron qui le talonne, Titouan Lamazou sur Écureuil d'Aquitaine 2, son bateau, conserve son avance allant jusqu'à jeter par-dessus bord tout l'équipement dont il n'a plus besoin pour s'alléger. Ironie du sort, alors qu'il est sur le point d'arriver, le manque de vent et la marée basse ralentissent sa progression. Son passage sur la ligne d'arrivée est néanmoins filmé en direct, il est minuit 5 minutes, le 16 mars.
Ah, on me confirme qu'il vient de passer la ligne. Titouan Lamazou, vainqueur du premier Globe Challenge, le Vendée Globe Challenge. On me confirme à l'instant que le... ça y est, il a gagné. Vous le vivez en même temps que nous, en ce moment même.
Nous sommes aux petites heures du matin. Sa famille l'attend, mais aussi les bruits des klaxons et des supporters qui crient son nom. C'en est fini de la solitude et c'est un bain de foule qui lui est réservé au Sable d'Olonne d'abord, puis sur les Champs-Élysées avec Loïc Perron arrivé deuxième 16h30 plus tard.
C'était Arthur H et M, duo de choc de la chanson française. Donc Arthur H et M et cette chanson Los Magnificos. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS. À tout de suite. Europa Voice numéro 135, comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors on a deux sujets dans Europa Voice, donc deux sujets, deux parties. Le deuxième sujet dans quelques instants sera l'intelligence artificielle et l'Europe qui prend des énormes décisions par rapport à l'accès et au développement de l'intelligence artificielle. On débattra de tout ça dans la deuxième partie de cette Europa Voice, mais première partie donc, la Bosnie, cœur donc des discussions. Alors c'est un petit peu, vous l'avez dit, c'est pas compliqué mais c'est un petit peu facile. Fastidieux. Accrochez-vous avec nous, c'est très intéressant en tous les cas. Il y a un groupe de pays des Balkans qui sont ou qui sont pas encore candidats. En tout cas, la Bosnie tape à la porte. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'est que, en gros, pour résumer, l'Europe les a autorisés à taper à la porte. Juste pour simplifier le débat.
Voilà. Alors,
ça simplifie pas mal, quoi.
Il y a deux aspects. Alors, d'abord, pour les auditeurs d'SBS d'Europa Voice, bien comprendre que souvent l'Union européenne réfléchit en termes d'adhésion et d'élargissement par rapport aux ensembles géographiques qui sont présentes sur... Qui sont des zones géographiques sur le sol européen ou aux portes de l'Union européenne. Là, c'est le cas avec les pays qu'on appelle les pays des Balkans. Alors, quand on parle des Balkans, on parle des Balkans ici occidentaux. C'est l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. La question que l'Europe se pose, c'est comment dans une fourchette de temps qui est encadrée dans les années 90 par un conflit sanguinaire qui a fait plus de 100 000 morts et dans les années 2020 par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, comment est-ce que maintenant je vais encadrer ce groupe de pays qui est sous la menace aussi du voisin russe et de la mainmise de la Russie à un moment, Christophe, où le conflit dans ces Balkans est terminé et donc ces pays peuvent légitimement, alors il y a plein de choses encore à faire, mais peuvent légitimement demander à être sur les rails d'un processus d'adhésion avec l'Union européenne.
Avec également le poids de l'Ukraine un peu plus haut dans la carte géographique de l'Europe, qui elle demanderait une adhésion à l'Union européenne sous un fast track, donc qui pourrait griller un peu la politesse à ces pays-là, alors que ces pays-là également ont eu un conflit très très dur, on le sait, il y a pas mal de temps, un conflit vraiment au cœur, aux portes de l'Europe, vraiment à l'époque. Donc beaucoup de similitudes dans ce qui s'est passé, et une réaction de l'Union européenne qui va devoir être différente, parce que différentes périodes, différentes époques, différentes façons, différents combats, ça me pose quand même pas mal de questions par rapport à l'Europe, tout ça.
Alors, l'Ukraine, c'était, il y avait tout un effet d'annonce aussi, d'une certaine façon,
oui, tout à fait.
Christophe. C'est-à-dire que ça faisait partie aussi du soutien à l'Ukraine.
Et puis un effet stratégique de réponse vers Poutine.
Exactement, mais de dire, voilà, accueillons l'Ukraine, permettons à ce pays qui est une zone tampon par rapport à la Russie d'intégrer plus rapidement. On parle de l'Union européenne, mais on peut aussi parler de l'OTAN, puisqu'on l'a vu, là, il y a des pays aussi qui sont neutres depuis 30 ans, je pense notamment à la Suède, qui ont aussi intégré l'OTAN.
Donc,
La Finlande, il y avait un effet d'annonce, en fait, de l'Union européenne de mettre en place cette procédure accélérée pour que l'Ukraine intègre l'Union européenne. Ça ne peut pas être reproduit pour chaque pays, pour des tas de raisons, mais la question que l'Europe se pose, c'est est-ce qu'on va encore attendre que ces pays soient menacés par un voisin de plus en plus hégémonique, ou est-ce qu'on va, si les conditions le permettent, favoriser l'accès à l'Union européenne, à ces pays? Et quand je dis favoriser, Christophe, c'est parce que vous l'avez mentionné en début d'épisode, c'est que pour la Bosnie-Herzégovine, là en l'occurrence, c'est simplement une nouvelle étape vers l'adhésion à l'Union européenne, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. La première, c'est qu'en fait, les 27 entament des pourparlers pour cette adhésion, se mettent d'accord. Et surtout, on le mentionne à chaque fois, il y a beaucoup de principes, notamment relatifs à l'État, au respect de l'État de droit, que la Bosnie-Herzégovine doit encore respecter et doit montrer patte blanche qu'elle a fait les efforts et qu'elle continue à faire les efforts pour que cette liste, on tique cette liste et qu'à la fin, in fine, la Bosnie-Herzégovine puisse non pas seulement candidater, mais aussi être intégrée, adhérée, accepté par l'Union européenne.
Alors aussi pour comprendre, la Bosnie est aussi à ses conflits un petit peu internes également. Les problèmes qui ont causé la guerre dans les Balkans sont pas tous résolus dans la région, et ça se montre énormément au sein de la Bosnie. Il y a encore un gouverneur des Nations Unies qui est en charge de pas mal de décisions en Bosnie. Il y a une montée de l'extrémisme, et en tout cas du populisme en Bosnie qui est très persistante depuis quelques années. Est-ce que ça fait de la Bosnie un candidat un petit peu différent de la Macédoine du Nord ou de la Serbie? En même temps, la Serbie, il y a eu quand même pas mal de velléités nationalistes aussi. On a beaucoup parlé et ça, je parle aux plus jeunes qui peut-être se référaient à leur livre d'histoire, qui n'ont pas vécu cette période-là. C'était une poudrière, cette zone, et mine de rien, ça l'est encore un petit peu, en fait.
Bah, ça l'est encore. On peut dire, en fait, il faut, je pense, pour comprendre ce qui se passe et ce qui se joue en Bosnie-Herzégovine par rapport à l'Union européenne, il faut évidemment regarder ce qui s'est passé dans les années 90, mais il faut aussi pas oublier que pour beaucoup de ces pays d'Europe de l'Est, des Balkans, il y a des exemples et des réussites qui en appellent automatiquement d'autres.
La Croatie,
la Pologne, ouais, Christophe, la Pologne ne serait pas...
Où elle en est, c'est en Europe.
Voilà, elle ne serait pas capable d'être alignée en termes d'indices de développement économique, notamment mis en place ou calculés par l'OCDE, si elle n'était pas partie intégrante de l'Union européenne.
Et c'est très intéressant avec la Pologne, puisque on va revenir à ça, mais pendant très longtemps, dans le côté ouest, on va dire, de l'Europe, on avait peur du fameux plombier polonais. Ça s'est pas passé. L'Europe a pas été submergée par les plombiers polonais. Donc en fait, il y a des peurs qui étaient là, qui ne se sont pas avérés vrais. Donc, on apprend aussi de ces situations-là.
Oui, et puis encore une fois, il y a un contexte géopolitique, il y a un alignement sur la réalité politique qui fait que, de toute façon, la nature a horreur du vide. Donc, si ce n'est pas l'influence de l'Union européenne et l'appartenance à l'histoire de l'Union européenne qui va primer dans les prochaines années pour ces pays des Balkans, c'est la mainmise de Moscou, c'est même la mainmise de la Chine, en termes d'influence, qui sera la priorité, enfin qui sera en fait la réalité pour ces pays dans les prochaines années. Et sur la question des migrations et la peur du plombier polonais, etc., ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on a parlé là des efforts que la Bosnie-Herzégovine a fait, les efforts que la Bosnie-Herzégovine a fait ces dernières années, et ben, notamment sur les questions migratoires, la Commission européenne salue l'acceptation du pays de coopérer notamment beaucoup plus avec l'agence européenne Frontex pour mieux contrôler ses frontières. Donc c'est assez intéressant que, par exemple, sur ces questions migratoires, on sait que souvent il y a des polémiques sur et Lampedusa et la prise en charge notamment des migrants et la répartition de ces migrants qui arrivent aux portes de l'Europe, mais aussi la question des frontières, parce que évidemment à 27, à 30, à 35, la question des frontières, elle n'a pas du tout la même acuité que quand on était à une Europe des 6. Et c'est beaucoup plus difficile de surveiller ces frontières. Et bien, sur ces questions-là, notamment, la Commission européenne salue les efforts de Sarajevo. Encore une fois, c'est surtout sur les questions du respect de l'état de droit, de la liberté de la presse, du respect des minorités sexuelles, religieuses, des principes de démocratie, qu'il y a encore des efforts à faire. Et puis, vous l'avez mentionné, ce contexte extrêmement particulier presque d'un gouvernement bicéphale, en fait, qui est resté à la suite du conflit dans les Balkans.
C'est d'ailleurs le seul pays extrait du conflit des Balkans qui a encore, justement, les Nations Unies à la tête du pays.
C'est surtout aussi un pays où, forcément, une des parties est plus pro-russe que l'autre, même si sur ces questions-là, le pays, enfin le parti historiquement qui était proche de la Russie, et là je pense à Milorad Dodik, le dirigeant de la Republika Srpska, il a adouci d'une certaine façon sa position, il a été beaucoup plus tempéré dans son soutien, dans sa proximité, appelons-le comme ça, avec la Russie. Et donc ça aussi c'est important pour l'Union européenne. L'idée c'est pas d'avoir un cheval de Troie de la Russie dans l'Union européenne. Et puis ce que je voulais aussi mentionner, Christophe, c'est que là on parle de la Bosnie-Herzégovine parce que c'est l'actualité de l'Union européenne et parce que les dirigeants des 27 vont en discuter fin mars, mais ça s'inscrit dans un processus global de l'Union européenne d'aider ces pays des Balkans, et notamment avec ce qu'on a appelé un plan de croissance. C'est vraiment injecter de la monnaie, injecter des subventions pour les aider à accélérer cette transition et faire que il ne reste plus, là je parle des 6 pays des Balkans occidentaux, reste plus pendant des années dans cette antichambre de l'Union européenne, mais puisse avoir le feu vert pour, encore une fois, faire cette procédure d'adhésion officielle et in fine devenir membre de l'Union européenne.
Parce que pour conclure là-dessus, je prends l'exemple de la Macédoine du Nord, qui a pendant très longtemps eu un énorme soutien pour l'intégration dans l'Union européenne. Le fait que ça prenne du temps, ça aide pas. Ça aide pas la population à vouloir continuer à intégrer l'Europe. Tout ça, ça prend du temps. On sait que ça peut prendre presque des générations, en fait. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a certains pays qui ont plus ou moins émis l'idée de rejoindre l'Union européenne en 2005, hein, c'est il y a 20 ans, donc on parle d'une génération. Ça aide pas dans l'opinion publique des pays, notamment en Macédoine du Nord, où ça commence à se retourner sur le fait de vraiment veut-on ou pas intégrer l'Union européenne.
Alors effectivement, sur la question de la Macédoine du Nord, Christophe, le pays a fait une demande d'adhésion à l'Union européenne en 2004, a obtenu le statut de candidat en 2005, mais l'Union européenne n'a officiellement ouvert les négociations qu'en mars 2020, après de nombreux reports. Et donc ça pose plein de questions. D'abord, pour le pays en question et sa population, parce qu'il faut aussi convaincre, hein, c'est pas forcément évident de convaincre sa population des bienfaits d'une adhésion à une entité extérieure, avec un parlement, avec un exécutif, une commission, etc. Mais aussi par rapport aux autres pays de l'Union européenne, parce qu'il faut le savoir, mais c'est le cas pour la Bosnie-Herzégovine, tous les pays de l'Union européenne n'affichent pas le même soutien. On a des pays, par exemple, comme l'Autriche, qui sont des grands soutiens de l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine. Il y a d'autres pays qui sont beaucoup moins enclins.
La Hongrie, par exemple. On en parle à chaque fois, mais la Hongrie, par exemple.
Même des pays, j'allais dire, là on faisait le divide un peu Est-Ouest, mais voilà, c'est souvent d'ailleurs c'est assez contradictoire, parce que c'est les pays de l'Est qui voient le facteur stabilisateur que l'Union européenne peut apporter à ces pays, alors qu'il y a un conservatisme qui peut apparaître souvent plus du côté des pays de l'Ouest. On parlait du plombier polonais, mais c'est simplement cette illustration de ce conservatisme, de cette peur. Et puis, il y a aussi quand même en toile de fond le Brexit. C'est-à-dire que...
Quand un des pays, pas fondateur, mais qui était là vraiment quasiment au tout début, décide de partir, la complexité de partir également n'aide pas non plus les gens à se dire, est-ce qu'on va y rentrer? Si jamais on veut partir, c'est compliqué. Enfin, tout ça, ça... Ouais, ça complique un peu la discussion, en fait.
Ça complique, et puis il y a aussi l'incertitude. Là, c'est un billard à plusieurs bandes, parce que c'est une année, encore une fois, rappelons-le, d'élection européenne. Le Parlement européen va être élu début juin 2024. C'est pas évident qu'il ait la même couleur politique. C'est pas évident que Ursula von der Leyen soit reconduite pour un deuxième mandat à la tête de la présidence de la Commission européenne. Donc tout ça aussi, c'est plein d'incertitudes. Là, il y a une impulsion d'Ursula von der Leyen pour faire ses partenariats, ce renforcement économique, ce plan de croissance avec les pays des Balkans. Rien n'est moins sûr qu'un autre ou une autre présidente de la Commission européenne soit sur la même ligne. Et donc, il y a plein d'incertitudes qui font que ces pays ont tout intérêt à profiter du contexte assez favorable, géopolitique extérieure comme le fast-track ukrainien, géopolitique intérieure comme Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, les Autrichiens, etc., qui veulent accélérer ce processus-là, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, même pour les pays de l'Union européenne.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Chanson sortie des archives, Les Innocents, un homme extraordinaire qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de mars. Allez, courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
À partir du 16 mars, on retrouve l'exposition Paris Impressions of Life 1880-1925. C'est à la Galerie d'Art de Bendigo. Et pour nous en parler, nous recevons la curatrice Anne-Laure Sol. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en Australie justement pour monter cette exposition. Et vous nous faites voyager à travers les œuvres dans le vieux Paris, ses rues historiques. Au total, ce sont plus de 170 œuvres et objets du musée Carnavalet à Paris qui sont exposés dans le Victoria en Australie, c'est bien ça?
Oui, c'est absolument ça. Et c'est vrai qu'on a conçu cette exposition comme une promenade.
Pourquoi avoir choisi la Belle Époque en particulier?
Alors, il nous a semblé que c'était une période particulièrement intéressante parce qu'elle montre de grandes transformations de la ville. C'est le tournant des 19e et 20e siècles et c'est l'entrée de la capitale dans une modernité qui est celle que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, il nous a semblé assez remarquable de pouvoir illustrer ce passage, en fait, ce passage du temps sur les rues, sur les édifices publics, sur les monuments, mais aussi sur les Parisiens, puisqu'on en voit beaucoup dans les œuvres qu'on présente, et de pouvoir, comme cela, montrer le visage d'une ville en train de changer.
Oui, une ville en constante mutation. On imagine que la communauté francophone du Victoria va être très intéressée par cette exposition, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'Australiens qui vont se déplacer. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en lumière concrètement? Là, vous venez de nous dire, c'est de montrer aux Australiens que Paris est en constante mutation.
Il y a plusieurs choses qui, à mon avis, peuvent retenir l'attention. La première, c'est de découvrir la richesse et la variété des collections du musée Carnavalet, qui est le plus ancien musée municipal parisien. Il a été fondé en 1866 et on a, à travers la sélection de près de 200 œuvres qui sont ici présentées, une bonne idée des différentes techniques, qu'il s'agisse d'affiches, d'objets, de tableaux, de sculptures, qui racontent tout à leur façon la transformation de la ville, mais aussi la transformation des usages des Parisiens, de leur façon d'habiter la capitale, de consommer, de se distraire, de se promener. Ça, c'est un élément effectivement important que la découverte de la richesse des collections de ce musée. Et puis l'autre chose, c'est effectivement de proposer une découverte exhaustive, si vous voulez, des transformations de la ville à un moment assez iconique, en fait, dans l'imaginaire collectif. C'est vrai que cette belle époque, hein, même si c'est une formulation qui est bien sûr postérieure aux années qui sont abordées ici, elle est liée à une vie parisienne, à l'idée qu'on a d'une vie parisienne qui reste très mythique dans le monde entier, en fait. Et c'est ce qu'on a voulu partager avec le public australien.
A priori, vous allez rencontrer un franc succès parce que pour vivre ici en Australie, on se rend compte quand même à quel point la France est fantasmée à l'étranger et notamment en Australie, que ce soit la culture, la langue, nos accents, les saveurs, les paysages et aussi peut-être l'inaccessibilité. La France, c'est à 17 000 km d'ici. Pourquoi avoir choisi la galerie d'art de Bendigo ?
Bah, écoutez, c'est vraiment une rencontre. La galerie d'art de Bendigo nous a approchés. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de points communs en fait entre nos deux institutions. En particulier, il y a tout un département ici à Bendigo de peinture de la fin du 19e et du début du 20e siècle et un certain nombre d'artistes, et en particulier d'artistes femmes australiennes qui sont venues travailler à Paris et qui sont contemporaines de la période traitée dans l'exposition. Donc vous voyez, il y avait déjà des similitudes en termes de thématiques et de typologie des collections. Donc ça, c'était très intéressant. Et donc c'est vraiment un parcours qui a été élaboré entre nos deux institutions. On partageait la même envie et on a fait la sélection des œuvres, l'élaboration du parcours de visite ensemble. C'était vraiment une collaboration intellectuelle extrêmement fructueuse et qui s'est merveilleusement bien passée.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, soit d'une œuvre, soit d'un artiste représenté, un coup de cœur que vous avez par exemple ?
Il y a bien sûr des grands noms hein, de l'histoire de l'art, comme Toulouse-Lautrec, Signac, Maximilien Luce, mais il y a aussi des découvertes à faire. Et je pense que c'est vraiment tout l'intérêt de cette exposition, c'est de pouvoir s'intéresser à des artistes peut-être moins connus, mais extrêmement intéressants, extrêmement créatifs, comme Louis-Abel Truchet, Lancier, Victor Dargaud, qui sont peut-être des noms dont on se souvient moins aujourd'hui, mais qui ont eu leur importance sur la scène artistique du début du XXe siècle et de la fin du XIXe siècle, et qui ont livré des visions de la ville qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement originales, qui se sont intéressées à des points de vue un peu laissés de côté par des artistes plus connus, ils sont aussi intéressés à des activités qui étaient celles de populations moins favorisées. On découvre dans l'exposition beaucoup de loisirs populaires, vous voyez qu'il s'agisse de fêtes foraines, de cafés-concerts, de cabarets, de promenades sur les boulevards. Enfin, il y a tout un peuple de Paris hein, qu'on voit vivre et s'animer dans ses peintures. Et cette exposition, pour cela, elle est riche de beaucoup de découvertes, il me semble.
Et ce qui contribue bien sûr au mythe parisien, au mythe français, c'est évidemment la gastronomie. Et très connue ici en Australie, et nos auditeurs de SBS French, il y a le chef Gabriel Gatté qui fait partie de l'exposition d'une certaine façon. Est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle il va jouer ?
Dans l'exposition, il y a toute une section qui est consacrée à la gastronomie et en particulier une collection de menus de restaurants extrêmement célèbres en leur temps, le Petit Riche, le Grand Véfour. Alors certains existent encore, d'autres ont disparu, et on peut, en lisant les intitulés de ces menus, se rendre compte des repas extraordinaires qui étaient proposés. Et puis, on a aussi fait venir toute une collection d'enseignes. Il y a deux magnifiques escargots dorés qui signalaient justement la boutique d'un marchand d'escargots qui se trouvait dans le centre de Paris. Donc, vous pouvez voir ces enseignes dans le parcours de l'exposition.
Merci beaucoup Anne-Laure. On le rappelle, l'exposition Paris Impressions of Life 1880-1925, c'est à la Galerie d'Art de Bendigo du 16 mars au 14 juillet 2024. Et c'est une collaboration exceptionnelle avec le musée Carnavalet. Vous l'avez dit, le plus vieux musée municipal de la ville de Paris. Il a été fondé en 1866. Merci beaucoup Anne-Laure.
Merci beaucoup.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Gilles Caplan et sa nouvelle chanson Daronne.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
À l'occasion de la Nuit des idées qui se tenait à Melbourne le 1er mars, on a rencontré Lucille Pétavin, une historienne. Vous étiez là pour nous parler des fault lines. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que vous avez dit sur scène et pourquoi vous vous êtes rendue en Australie ?
Alors, je suis venue en Australie pour parler plus particulièrement de mon travail et notamment des questions d'égalité homme-femme parce que je suis experte dans ce domaine et plus particulièrement de l'étude que j'ai menée sur le coût de la virilité. C'est une approche économique, statistique, des conséquences financières de la masculinité toxique dans la société. Et à cette occasion, j'ai présenté quelques chiffres pour l'Australie.
Oui, parce qu'en mars dernier, vous avez publié un essai à ce propos-là qui s'appelle « Le coût de la virilité ». Le coût COUT, comme vous dites, c'est une question d'économie. Ça coûte combien alors la virilité ?
Alors pour la France, ça coûte 100 milliards d'euros par an. Donc c'est tout à fait colossal parce que les hommes sont surreprésentés dans la violence. Alors non seulement la violence qui est faite aux femmes, mais dans tous les types de violences. Pour vous donner quelques chiffres, par exemple, juste pour la France, 83% des mises en cause par la justice sont des hommes. 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes. Et les prisons sont remplies d'hommes puisque 96,3% de la population carcérale est masculine et tout ça entraîne des coûts pour l'État en termes de frais de justice, de forces de l'ordre, de services de santé et puis pour la société parce qu'il y a des victimes et donc des souffrances physiques, psychologiques, des pertes de productivité, des destructions de biens. Et donc finalement ce que j'ai essayé de calculer c'est le surcoût que représente la violence masculine par rapport à celle des femmes parce qu'on voit que les hommes commettent beaucoup plus de faits de délinquance, de criminalité que les femmes.
Si on résume ce que vous venez de dire, c'est la société paye cher le prix de la virilité. Mais déjà, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par virilité ? Et la société paye cher, donc là vous venez de parler des conséquences sur les victimes, sur les femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus, aller un peu plus loin dans votre raisonnement ?
La virilité, c'est une norme qui définit encore aujourd'hui dans notre société ce que doit être un vrai homme. Donc c'est un idéal normatif et c'est une notion qui rassemble les attributs de force, de puissance, à la fois physique et morale, et qui pousse les hommes à adopter des comportements de dominant. Et donc des comportements de violence, de discrimination, de non-respect des règles au détriment de l'ensemble de la société, des hommes et des femmes eux-mêmes. Et effectivement, quand on en paie un prix, alors on peut l'estimer financièrement, c'est ce que j'ai fait, mais on voit bien dans les chiffres par quoi ça se traduit dans le quotidien des citoyennes et des citoyens, par exemple. En France, il y a les violences systémiques qui sont faites aux femmes. Les chiffres montrent qu'il y a une femme qui meurt encore tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Les hommes aussi paient un prix à cette virilité parce que prouver sans cesse qu'on est fort moralement et physiquement tout au long de sa vie, par exemple en prenant des risques, eh bien ça a des conséquences très mesurables sur la vie des hommes. Par exemple, il y a des études qui montrent que déjà à l'âge de 14 ans, les garçons ont 70% de risque de plus que les filles de mourir dans un accident. En France, 87% des morts sur la route sont des hommes. Et si on prend la population des hommes dans son entièreté, ils ont 2 à 3 fois plus de risque de mourir de façon prématurée, c'est-à-dire avant 65 ans, d'une mort évitable, c'est-à-dire liée à un comportement à risque, que les femmes. Donc, ce coût de la virilité, on le paye financièrement à l'échelle de l'État, à l'échelle des impôts que nous payons en tant que citoyens et que citoyennes, mais aussi dans notre quotidien par les violences, les prises de risques, notamment commises par les hommes, que nous subissons toutes et tous finalement.
Et donc la moralité de ce raisonnement, est-ce que c'est de dire qu'il faudrait se comporter davantage comme les femmes ?
Exactement. Alors, c'est pas qu'une question morale, c'est une question statistique. Tout mon travail se base sur des données officielles, c'est-à-dire produites par les ministères de la Justice, de l'Intérieur. Lorsque l'on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la moitié de la population, à savoir les femmes, qui représentent 51,6% de la population en France, en fait, les femmes qui sont une majorité mais traitées comme une minorité, eh bien, ont des comportements beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus altruistes, beaucoup plus en adéquation avec la société de droit dans laquelle on vit. Elles ne représentent que 17% des mises en cause par la justice. Et cela parce que on les éduque peu ou pas à travers ces valeurs de virilité, ces valeurs de domination. Et donc effectivement, ces statistiques, si nous éduquions davantage les garçons comme les filles, eh bien, nous vivrions dans une société plus riche et plus apaisée.
Alors bien entendu, là on fait des généralités, tous les hommes ne sont pas violents et toutes les femmes ne sont pas non violentes.
Alors effectivement, il y a des femmes qui sont capables de violence au même titre que des hommes et des hommes qui sont pacifiques et qui le restent toute leur vie. Ce que nous montrent les datas en fait, c'est que bien sûr, tous les hommes ne sont pas délinquants et criminels, mais les chiffres nous montrent que l'immense majorité des délinquants et des criminels sont des hommes. Et cela, c'est vrai dans tous les contextes, quelle que soit la zone géographique, la tranche d'âge, le milieu social, le niveau d'éducation. En fait, le premier critère qui définit le profil des délinquants et des criminels, c'est le sexe, et dans l'immense majorité des cas, le sexe masculin. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut avoir en tête, parce que bien souvent, nous donnons des explications à la violence qui sont erronées. Bien souvent, nous allons par exemple expliquer la violence par la pauvreté, la discrimination, le contexte social, etc. Alors je ne dis pas que ces facteurs ne peuvent pas jouer un rôle, mais ce que l'on voit, c'est que les femmes aussi vivent dans la pauvreté, les femmes aussi vivent des discriminations, et même plus que les hommes si on prend en compte par exemple les écarts de taux d'emploi ou les différences de salaire. Et puis au niveau des discriminations, j'ai envie de dire que le sexisme quand même, 50% de la population le subit. Eh bien, dans une même situation, dans un même contexte social, les femmes commettent peu ou pas de violence comparée aux hommes. Donc ce n'est pas tous ces critères qui expliquent la violence. Et c'est pour ça qu'il faut avoir bien en tête, finalement, ce premier critère du sexe masculin qui définit le profil des délinquants et des criminels pour justement viser les véritables origines de la violence et pouvoir imaginer un jour des solutions pour vivre dans une société plus pacifique.
Et justement, avec l'évolution de la société, on est en 2024 aujourd'hui, vous trouvez que ça va dans le bon sens ?
Ce dont je m'aperçois, c'est qu'il y a effectivement des changements. Lorsque je donne des conférences auprès des jeunes générations, je vois qu'ils sont plus au fait des questions d'égalité entre les hommes et les femmes, de sexisme, etc. Par contre, il y a une étude du HCE qui est sortie en France très récemment qui montre que finalement, même si ces jeunes générations sont plus au fait de ces questions-là, le sexisme est bien prégnant et sur certaines questions, même plus que les anciennes générations. Donc, c'est quand même pas très bon signe. Et le problème, c'est que finalement, cette culture de la virilité, on voit hein, aujourd'hui que la violence, elle s'exprime toujours de façon très importante et de façon très rapide dans l'éducation des garçons, avec les jeux qu'on va leur donner. Par exemple, en France, il faut savoir que dans les catalogues de jeux, dans 92% des cas, lorsqu'il y a une arme, elle est tenue par un petit garçon. Et juste ça, comment est-ce qu'on peut ne pas remettre en question que des jouets puissent avoir la forme d'une arme ? Et puis, dans les films, le fait qu'on encore aujourd'hui, les héros qui s'adonnent à une violence qui est bien légitime souvent pour sauver le monde sont des hommes. Et les études montrent qu'il y a une appétence de la part des garçons pour cette violence, une identification à ces héros. Voilà, et on voit comme ça, pour ne citer que ces quelques exemples, que tout au long de la vie des garçons, il y a une acculturation à la violence et au rapport de domination. Et là, sur cette question par rapport aux violences que les hommes commettent envers les femmes, il y a un véritable apprentissage du mépris du féminin. Et ça, on le fait de façon systématique et on le fait toujours. C'est-à-dire que très tôt, on apprend aux petits garçons que être un homme, c'est surtout pas être une femme. Donc surtout pas de rose, surtout pas de couette, surtout pas de posture trop efféminée. Quand on va les comparer aux filles, on va leur dire tu pleures comme une fille, tu cours comme une fille. Donc voilà, ça va être de l'humiliation et les petits garçons vont comprendre très vite que le féminin est inférieur au masculin et cela crée inévitablement des comportements sexistes in fine. Donc je pense qu'à toutes les strates de la société, dans la famille, dans la culture, nous avons à enseigner d'autres valeurs aux petits garçons pour que in fine la violence baisse.
Mais dernière question pour vous, c'est le travail des politiques, des parents, des enseignants?
Alors c'est le travail de toute la société. Je sais que ça peut paraître colossal et souvent on me dit mais on va jamais y arriver, effectivement les changements de mentalité sont toujours longs. Mais pour d'autres sujets, on peut voir quand même que les sociétés, elles peuvent avancer et avancer très vite. Alors sur les questions d'écologie, ok, ça a pris quelques temps, c'est pas parfait, mais enfin aujourd'hui on sait tous ce à quoi ça correspond. Prenons notre exemple, le Covid. En un claquement de doigts, du jour au lendemain, nous avons toutes et tous été confinés, avec des changements de mentalité, par exemple sur le télétravail, parce qu'en France, c'était quelque chose qui était très mal vu, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est démocratisé du jour au lendemain. Donc, quand on veut, on peut. En plus, j'ai envie de dire, la solution, c'est ce que je disais, on l'a sous les yeux, on l'a, l'applique déjà pour la moitié de la population, à savoir les filles, donc faisons-le aussi pour les garçons. Après, oui, on est d'accord que ça se joue à toutes les strates. Ça se joue, les parents ont une responsabilité, l'école a une responsabilité, le milieu culturel a une responsabilité, les politiques ont une responsabilité, mais si on ne commence pas, on n'y arrivera pas. Là, on a justement, les statistiques pour nous, les conséquences financières. Voilà, on ne peut plus fermer les yeux sur cette réalité. Donc, allons-y.
Lucille Pétavin, merci beaucoup.
Merci à vous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Quand au foot, quand de la vie coupe mes jambes, quand je pleure, quand tu trembles, que notre terre flambe. Semble insurmontable. Como a menudo te piden, sé justo, tenaz y sincero, sé solo tú, sé solo tú.
Et c'était Olivia Ruiz avec sa chanson Le sel. C'est la fin de notre programme, merci de l'avoir écouté. Un prochain rendez-vous, c'est donc demain à 13h avec notre émission en français, bien entendu, et sur notre site internet sbs.com.au/french. Je vous rappelle l'horaire de nos programmations dans la semaine, mardi et jeudi à 13h également. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.